Céline, alors je ne sais pas si tu étais en vacances à Berlin, mais en tout cas, ou alors pour le travail, pour les enquêtes, je crois que tu nous as ramené un peu de presse berlinoise. Alors je ne sais pas si elle est alternative, si elle est...
Elle est alternative, oui, elle est alternative et je ne me suis pas déplacée. C'est le magazine qui est venu à moi, donc c'est un magazine qui s'appelle Route Sucrée et il est venu à moi par l'intermédiaire de mon coloc qui, lui, est berlinois. Voilà, alors, de l'intérêt d'avoir des colocs berlinois, ou d'ailleurs en fait.
Route sucrée pour un bouquin, pour un magazine berlinois, c'est assez original déjà.
Ouais, alors je dois dire que j'ai pas vraiment encore compris pourquoi ça s'appelait Route sucrée. Donc Route sucrée en fait c'est la traduction française du nom du magazine en allemand qui s'appelle Straßenhauszucker, qui est bon la traduction juste littérale de Route sucrée. Et donc le titre français c'est en fait c'est le titre pour la version en gros international du magazine, qui est une version en anglais. Donc ils ont un titre français pour la version en anglais, mais en allemand, ça s'appelle Straßenhauszucker.
Ok, d'accord. Straßenhauszucker, moi je suis vraiment très 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 mauvaise en allemand. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine? Parce que j'imagine qu'on ne parle ni de sucre, ni de canne à sucre, ni de problèmes routiers.
Alors, en effet, on parle de sujets qui nous intéressent, on parle de sujets politiques. Alors, déjà, peut-être avant, je vais vous retracer un tout petit peu l'histoire du magazine. C'est un magazine qui date de 2009 et c'est assez intéressant. Il a été créé donc à Berlin en 2009 et c'était à l'occasion, en fait, de la Coupe du Monde de foot. Alors, il me semble que c'était en 2009, la Coupe du Monde de foot. Enfin bon, en tout cas, c'était pour réagir à un regain de sentiment national et à une époque où aussi il y avait toutes les célébrations pour la réunification. Donc là, en fait, ils se sont dit, ça a pu un peu ce regain de sentiment national. Et ils ont eu besoin de... Enfin, ils ont commencé à écrire des textes là-dessus. Et en fait, devant le succès que ça a eu, ils ont continué et ils ont fait un magazine qui a maintenant 8 numéros. Donc à partir de ce thème-là, et c'est un magazine qui est tiré à 100 000 exemplaires.
Ce qui est assez énorme quand même.
Ce qui est vraiment énorme, quoi. Pour une, en gros, feuille de chou radicale, c'est assez élevé, quoi. Et pour la version internationale, donc là, il n'y a pas de numéro sur ce magazine-là, mais il me semble que c'est le premier numéro, en fait, de la version internationale. Et donc là, ils ont prévu de le tirer à 30 000 exemplaires. Voilà. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine? Alors, d'abord, le truc intéressant, c'est leur explication, donc leur prise de position, en fait, leur ligne éditoriale, finalement, qui est à la fois antinationale et internationaliste. Alors, ils expliquent ce que ça veut dire. Donc, antinational, en fait, c'est pas seulement... Donc, ils précisent que c'est pas seulement de l'antinationalisme. Donc, c'est pas seulement contre... Enfin, voilà, contre des propos nationalistes ou un attachement, une valorisation excessive de l'attachement à la nation, etc. Mais c'est vraiment contre la notion même de nation. Et donc aussi du patriotisme, etc., etc. Telle, par exemple, qu'elle s'était manifestée au moment de la Coupe du Monde, quand on dit « Ah ouais, je voudrais que mon équipe gagne », etc.
Mais j'imagine quand même que toutes les... Je ne sais pas si c'est un magazine régulier, mais quand même pour se renouveler sur l'antinationalisme, ça doit être assez compliqué. De quoi parle-t-on? On parle des nationalistes, j'allais dire des personnes d'extrême droite, des mouvements fascistes allemands, où on a un regard critique
Alors justement, il peut y avoir effectivement des articles de déconstruction du racisme, des nationalistes, etc., etc. Mais donc, comme je disais, c'est fondamentalement surtout antinational. Donc ça, c'est la façon d'aborder les sujets qu'ils traitent. Et puis après, tout n'est pas autour de ce thème de la nation, en fait. Parce qu'il y a le deuxième aspect, prise de position qu'ils ont, c'est internationaliste. Donc c'est antinational et internationaliste. Et là, ils précisent bien, c'est assez rigolo, ils précisent bien qu'il n'y a pas de solidarité par principe avec toutes les luttes de protestation contre le capitalisme et que donc c'est pas du tout c'est pas une solidarité donnée en fait. C'est par exemple ils vont pas se sentir ils expliquent qu'ils ont pas de raison de se sentir solidaires de mouvements qui par ailleurs perpétuent des logiques de domination comme par exemple au hasard le sexisme ou des logiques comme ça. Voilà, donc évidemment, c'est une logique internationaliste dans la perspective de construire des structures d'émancipation ici et maintenant, mais avec des valeurs qui sont totalement des valeurs d'émancipation dans tous les domaines, quoi. C'est pas juste dans le domaine anticapitaliste ou antiraciste. Donc voilà, donc ça, c'est en fait les deux piliers fondateurs un peu de cette revue. enfin de cette revue, je dis revue, mais c'est plutôt un magazine, hein, ça fait, je sais pas, c'est quoi comme format ça, c'est à peu près format A4 quoi, avec donc un papier journal, enfin c'est pas du tout une revue quoi, c'est un magazine d'une vingtaine de pages.
Et qui sont les gens qui font cette revue ?
Alors,
c'est un collectif ?
Grand mystère, voilà, grand mystère, parce que c'est effectivement un collectif, et pour que ça reste collectif, ils signent pas les articles, et ils disent « nous » dans tous les articles. Donc en fait, on sait pas vraiment qui écrit, à la fois je comprends le principe, et en même temps, c'est un peu frustrant, enfin on sait pas trop. Ouais. Alors d'ailleurs, si vous voulez contribuer... parce qu'ils sont preneurs. Si vous voulez contribuer, recevoir le magazine, etc., vous pouvez envoyer un mail à info@strassenhauszucker.tk. Donc Strassenhauszucker, ça s'écrit Strassenhauszucker.tk. Et de toute façon, si vous tapez sur internet route sucrée ou Strassenhauszucker, vous allez trouver un site avec, sans doute un contact pour leur écrire. Alors du coup, par exemple, dans ce numéro, dans ce numéro que j'ai récupéré, il y a plusieurs articles. Il y en a combien ? Il y en a 9. Il y a 9 articles. En fait, tous les articles, c'est assez bien parce qu'ils font une ou deux pages. Donc, c'est pas trop long. Alors... problème quand même, tout est écrit en anglais, enfin, problème pour les gens qui ne sont pas anglophones, donc c'est quand même...
C'est éventuellement un tout petit peu plus facile que l'allemand, mais...
Voilà, c'est plus facile que l'allemand, mais bon, ça implique quand même de parler anglais, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, il y a 9 articles. Alors, il y a notamment, parmi les articles que j'ai vraiment trouvé intéressants, il y a un article sur la notion de révolution, en fait, où ils mettent en perspective le principe de révolution et... et ce qui se passe dans notre vie quotidienne et les actes qu'on peut faire pour... enfin, qui ne sont pas vraiment des actes de révolution, puisque la révolution, quand même, c'est un grand mouvement, et qui sont quand même des actes qui montrent qu'on résiste au système. Donc, par exemple, quand on veut... quand on interpelle un flic qui est en train d'agresser un sans-papier ou des choses comme ça. Donc, ils essayent de mettre ça en perspective. Et donc, le titre de cet article, c'est... why we need a revolution and why a revolution is not enough. Donc pourquoi on a besoin d'une révolution et pourquoi est-ce qu'une révolution ne suffit pas? Pourquoi est-ce que c'est pas assez? Et donc ils expliquent, c'est vraiment très pédagogique quoi. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas trop prise de tête ou trop abstrait. Et donc l'idée c'est vraiment qu'il faut garder en tête qu'à la fois au quotidien on peut avoir des gestes politiques et qu'en même temps ces gestes politiques sont jamais suffisants, qu'il faut garder la perspective de la révolution et qu'en même temps il faut pas trop mythifier la révolution parce que c'est pas en un jour que tout va changer et qu'il faut au contraire, c'est pour ça que c'est aussi important de réfléchir dans le présent et au quotidien sur ce qu'on fait puisque c'est ça qui permet de se préparer et d'être prêt et de continuer à réfléchir, de réfléchir en amont et d'avoir les outils pour réfléchir après, une fois que la révolution est réalisée. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple d'article que je trouvais intéressant, qui est l'article qui ouvre en fait le magazine après leur introduction. Et puis à la fin de chaque article, il y a en fait 3 références bibliographiques, enfin qui sont soit des livres, soit souvent des sites internet aussi. Et ça aussi, je trouve ça pas mal parce qu'il y a à la fois des références bibliographiques, c'est bien qu'il y ait des références, quoi. Et puis en même temps, c'est pas, y en a pas trop. Donc,
c'est accessible à tous, quoi.
En tout cas, il y a un effort pour rendre les choses, pour pas que ce soit trop prise de tête. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un article du Monde diplomatique de Thomas Frank dans le Monde diplomatique de janvier là sur le mouvement Occupy. Où il explique pourquoi est-ce que Occupy a échoué. Et le titre de l'article, c'est Occupy, donc Occupy Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même. Et donc, il explique que c'est un mouvement qui, en fait, c'est...
C'est auto-célébré, d'une certaine façon.
C'est ça, tu l'as lu aussi.
Je l'ai lu aussi, voilà, je le reconnais.
C'est un mouvement qui s'est auto-célébré et du coup, qui a cru que juste dans la contemplation de ses propres formes d'organisation sans revendication politique collective, il allait pouvoir faire quelque chose. Et il y a notamment un passage où il cite une allocution d'un mec d'Occupy Wall Street qui est un truc totalement hyper réflexif où on comprend rien du tout. Et c'est totalement... Enfin bon, voilà. Là, on se dit, ouais, effectivement, c'est pas la bonne direction. Alors du coup, j'ai voilà. Alors j'avais aussi d'autres articles. Enfin bon, il y a, comme je disais, il y avait pas mal d'articles que j'ai trouvé bien, mais il y en avait notamment un aussi parce que ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce magazine, c'est le côté on part de nos expériences personnelles, quoi. Et du coup, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Parce que c'est pas juste des discussions politiques abstraites, et en même temps c'est vraiment une analyse politique de gestes très quotidiens. Donc par exemple, il y a un article qui s'intitule Start with yourself, avec un point d'exclamation, point d'interrogation, et qui est donc notamment sur les pratiques de boycott, et sur est-ce qu'en fait il faut arrêter de porter des fringues H&M, ou est-ce qu'il faut arrêter d'aller manger au McDo, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Alors, bon, la réponse est à moitié donnée dans le sous-titre, puisque le sous-titre, c'est « How consumer criticism is often too simple ». Donc, pourquoi la critique consumérisme est souvent trop simple. Et donc là, par exemple, il donne l'exemple de McDonald's, où on peut boycotter McDonald's et en même temps, enfin, et ça semble dire qu'en fait, c'est mieux dans des petits snacks. Et en fait, c'est pas forcément mieux dans des petits snacks. Et en critiquant McDonald's, il y a automatiquement une forme d'idéalisation de problématiques similaires qui se déroulent dans des entreprises de taille beaucoup plus petite.
En tout cas, sur la restauration, quand on voit tous les sans-papiers qui sont exploités dans les petits restaurants, je pense que McDonald's a une position qui est plus contrôlée, on va dire.
Voilà, c'est un peu le sens de ce qu'ils disent, et qui est d'ailleurs du coup est totalement en ligne avec leur introduction aussi, où ils se présentent comme un groupe non dogmatique. Et vraiment, moi, j'ai eu cette impression en lisant les articles que c'était, il y a un vrai effort de réflexion au-delà de positions de principe affirmées parfois dans des groupes un peu radicaux, quoi.
En tout cas, est-ce que tu as trouvé d'autres choses dans ce numéro de Route Sucrée? On le rappelle, c'est un journal allemand anti-nationaliste et internationaliste qui se trouve à Berlin et peut-être ailleurs, et qui est en anglais. Ouais, nous, alors... on a des choix et des revues de presse qui sont assez originales.
Ouais. Oui, non, mais tout à fait. Il y avait plein d'articles intéressants. Bon, il y avait un truc sur l'Union soviétique en mode. Comme c'est trop chiant, les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme parce que, la preuve, l'Union soviétique, ça n'a pas marché. Donc là, ils expliquent pourquoi ça n'a pas marché et que ça n'empêche pas de penser une alternative au capitalisme. Donc bon, ça, c'est un article, on va dire, classique en termes de presse alternative. Il y a aussi deux articles, on va dire, féministes. Un sur le féminisme et l'État, où ils expliquent pourquoi, en fait, l'État n'est pas forcément l'ami des féministes, et qu'on peut avoir l'impression que l'État améliore, enfin, par la législation, peut favoriser une égalité ou une moindre discrimination à l'encontre des femmes, mais qu'en fait, c'est une position aussi assez classique hein, dans les milieux radicaux, qu'en fait, c'est toujours à des fins capitalistes, en fait, et que c'est juste pour des raisons de...
Il y a un intérêt, au final.
Voilà, il y a un intérêt économique, au final, et pas du tout de libération. Et puis, il y a un autre article... il y a un autre article sur le... Enfin, un article féministe sur le porno, en fait. Pareil, là, le sous-titre, c'est « Why not every porno is hot ?» Donc, pourquoi tout porno n'est pas excitant? Enfin, c'est pas une traduction aussi sexy en français qu'en anglais, mais bon. C'est un article sur... c'est intéressant pour les gens qui connaissent pas, mais c'est vrai que dès qu'on connaît un peu, c'est pas dans les articles féministes qu'il y a le plus de... que je trouve ils sont le plus originaux. Donc là, ça explique en fait la position pro-sexe des féministes. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, on peut... à la fois critiquer la pornographie mainstream et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on jette toute la pornographie à la poubelle, mais on fait ce qu'on appelle du porno, des films porno féministes.
On peut se réapproprier le genre du porno pour en faire.
Exactement. Alors là, et c'est ça. Et du coup, à la fin, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils insistent sur la communication en fait entre les partenaires et que voilà, c'est pas cool en soi de faire du porno féministe ou cool de regarder du porno féministe, ce qui est important, ils redisent bien à chaque fois que c'est pas une question d'être cool ou d'avoir telle ou telle pratique, mais vraiment de trouver ce qui nous convient et de pas et de communiquer avec par exemple son partenaire aussi pour les pratiques sexuelles alternatives et pour trouver ce qui nous convient quoi. Il y avait un autre article aussi que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'était sur l'antisémitisme et ça je trouvais ça du coup forcément comme c'est traité alors il me semble qu'ils sont allemands. Donc, je pense qu'ils sont tous plus ou moins allemands, mais en tout cas, c'est traité avec une perspective allemande, et du coup, c'est aussi intéressant parce que c'est pas exactement la même expérience historique. Et du coup, c'est pareil. Enfin, je trouve qu'on sent transparaître une assez forte exigence intellectuelle, en fait, à la fois vraiment. On lâche pas sur l'antisémitisme, mais en même temps, on essaye de penser en quoi ça se distingue du racisme. Et donc là, il retrace en fait une rapide histoire de l'antisémitisme. Et la raison pour laquelle ça se distingue du racisme, c'est que c'est pas seulement la haine des juifs, mais c'est que c'est aussi, on attribue aux juifs en fait un rôle et un pouvoir dans la société particulier, quoi, distinct des autres groupes. Et que ça se retrouve par exemple dans une critique du capitalisme qui serait uniquement une critique de la finance. Qui en fait, ce qui est sous-tendu là-dedans, c'est... puisqu'il y a tellement dans nos imaginaires cette idée de juif égale finance, et bien en fait, quand on fait cette critique du capitalisme uniquement sous l'angle financier, en gros, on perpétue quand même un stéréotype antisémite, quoi. Voilà. Parce que j'avais...
la revue de presse qui s'allonge.
Si j'ai un peu le temps, ouais. C'était un dernier article que je trouvais aussi super intéressant sur la fétichisation du travail. Donc là où ils expliquent que effectivement, qu'ils expliquent que c'est qu'on a tendance à fétichiser le travail et n'importe quelle forme de travail, et pas seulement en fait en général dans nos conversations, mais aussi dans des milieux radicaux, qu'il faut absolument toujours avoir l'air surbooké, faire plein de trucs, et que effectivement c'est pas forcément cohérent au jour le jour. Par exemple, si je te vois, Juliette, et je te dis « Ah, mais t'as fait quoi ces jours-ci » et je commence à te raconter que j'ai fait plein de trucs, etc., etc. Et bien ça, en fait, ce type d'attitude, c'est pas forcément finalement cohérent avec une critique politique qu'on peut avoir par ailleurs de la notion de travail, puisqu'on se rend pas compte, ou en faisant ça, en tout cas, on valorise une espèce de suractivité dans tout ce qu'on fait.
Et là, quand tu disais fétichiser, ça veut dire quoi, fétichiser ?
Fétichiser, c'est donner une importance particulière au travail. C'était pas dans un sens, fétiche style porno, si c'est ça ta question.
Non, c'est pas que ça. Je n'ai pas l'esprit si mal placé.
Ou pas, hein. Donc c'est ça le magazine Strassenhauszucker, route sucrée, voilà, et vous pouvez les contacter, donc allez voir sur leur site, je crois que c'est strassenhauszucker.blogsport.de, mais bon, en tapant route sucrée ou Strassenhauszucker dans n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur leur site internet, et vous pouvez leur envoyer un mail si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous procurer la revue. Je crois qu'ils proposent de l'envoyer gratuitement dans la mesure de leurs moyens. Et donc, vous pouvez les contacter à cette adresse info@strassenhauszucker.tk.